Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Bon, hier, rapport préliminaire de la commissaire à la santé sur la catastrophe, je dirais l'horreur, dans les centres de soins de longue durée lors de la première vague de la pandémie. En date du 30 août, 5745 personnes étaient mortes de la COVID, 90% des personnes âgées, là. 90% étaient hébergés dans des centres de soins de longue durée, des RPA ou des ressources intermédiaires. Et la commissaire identifie clairement ce que j'appelle des problèmes organisationnels chroniques. Elle est avec nous ce matin. Joanne Castonguay, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
J'aimerais que vous m'expliquiez, je pense qu'il y a comme deux niveaux dans ce que vous avez découvert, des problèmes de base, de sous-financement. Et à peu près tous les gouvernements du Québec peuvent en prendre la responsabilité collective pendant des années de ne pas avoir mis assez d'argent, assez de ressources pour donner un cadre de vie respectable aux personnes âgées.
Absolument. Je peux difficilement commenter. Je suis tout à fait d'accord avec votre interprétation.
OK. Est-ce que vous avez évalué le manque de financement? Est-ce que vous savez combien on aurait dû investir puis qu'on ne l'a pas fait?
On n'est pas rendu là, puis honnêtement, je pense pas que ça se traduit en chiffres. Parce que le problème, c'est pas le fait qu'on met pas assez d'argent, c'est le problème, c'est qu'on n'évalue pas qu'est-ce qu'on obtient pour l'argent qu'on dépense.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
En fait, on n'a pas les données sur les coûts par cas. Alors, on sait pas pour une intervention ou pour un patient donné combien qu'est-ce que ça l'a coûté au total. Par ailleurs, quand il s'agit des personnes âgées là, dans les milieux d'hébergement, on traite complètement séparément les milieux d'hébergement de tout ce qui se passe dans le reste du réseau de la santé. Alors, c'est complètement là séparé, alors que c'est des personnes qui sont à des niveaux de dépendance puis à la fin de leur vie, là, donc qui ont des besoins de santé assez importants. Et il n'y a pas de continuité dans les soins ou de lien entre
Donnez-moi un exemple parce que je ne suis pas sûr que je comprends.
OK. Si, par exemple, il y a des complications pour un patient qui est dans les soins, qui est hébergé dans les soins de longue durée, on l'envoie à l'urgence ou on l'envoie à l'hôpital parce qu'on n'a pas les ressources à l'hôpital pour prendre soin de cette personne-là. Alors, c'est assez simple à montrer. Alors, une personne qui est déjà en niveau de dépendance très avancé, qui est envoyé à l'urgence, puis après ça, qui est hospitalisé, perd énormément de ses capacités, parce que là, elle est alitée, elle perd des soins là, de réadaptation qu'elle aurait reçus dans les milieux d'hébergement, et donc, elle devient de plus en plus... Elle décline rapidement. Alors, au lieu de lui offrir les soins dans le milieu d'hébergement où elle habite, le plus souvent, on les offre à l'hôpital. Alors, c'est la personne qui doit se déplacer.
OK. Vraiment, comme on dit, gratter
le bobo.
Oui, mais non, mais le volet administratif, parce que okay. Ce que je comprends, là, quand Gaétan Barrette, avec sa réforme, a créé des CIS puis des CIUS, la conséquence, ça a été néfaste pour les centres de soins de longue durée. Est-ce que je me trompe?
Je suis pas sûre que je dirais que ça l'a changé énormément, là. Je dirais que ça l'a poussé la chose un petit peu plus loin, là. En ce sens que...
Bien là, je vous cite, la disparition des agences a créé une perte d'expertise pour certaines banques de données.
C'est ça, pour les données, oui. Mais là, on parlait des soins de longue durée, là.
Oui.
Au niveau des données sur les soins de longue durée spécifiquement, effectivement, on a perdu beaucoup d'informations parce que là, l'information est noyée dans le reste de l'établissement. Alors, on traite là un établissement comme étant une grande organisation, puis les données de toutes les installations, donc tous les hôpitaux généraux, les CLSC, les soins de longue durée qui font partie de cette même région-là sont cumulés dans une seule base de données.
OK. Juste comprendre aussi, là, quand la pandémie arrive, là, dans les centres de soins de longue durée au Québec, là, est-ce qu'il y a une structure décisionnelle, opérationnelle, qui est fonctionnelle? Autrement dit, y a-t-il quelqu'un qui, dans chaque établissement, contrôle les opérations, est capable de prendre des décisions?
Dans chaque établissement, si on dit CIS et CIUS...
Non, dans les CHSLD directs.
Dans les CHSLD, au moment de la pandémie ont été déclenchés, non. On avait une personne responsable au niveau de la région pour chacune des installations, mais on n'avait pas une personne dans chacun des CHSLD.
OK, donc il n'y avait pas un boss par établissement.
Non, okay. Ça a été réglé.
Oui, ça je sais. Mais est-ce qu'au moment de la pandémie, est-ce qu'on avait, on le sait, un problème de ressources? On savait qu'on manquait de monde.
Oui, ça fait plusieurs années qu'on sait qu'on manque de monde.
OK. Donc, quand la crise est arrivée, c'était le naufrage prévu, là. C'est-à-dire pas trop de pouvoir à l'intérieur, manque de personnel, des gens extrêmement vulnérables. C'est-à-dire que c'était écrit dans le ciel, c'était pour arriver de même, là.
Il y en a qui la qualifient d'une tempête parfaite. Je suis assez d'accord, oui, effectivement.
Et ça veut dire quoi, là, quand vous menez votre enquête, là? Sont morts de la COVID, mais il y en a combien qui sont morts d'absence de traitement, d'absence de soins?
On ne le sait pas.
Allez-vous le savoir?
Honnêtement, ce qu'on est en train de faire, justement, là, c'est de forer l'ensemble de l'information qu'on a pour en faire ressortir le plus d'informations qu'on peut tirer. Donc, pour le moment, je ne suis pas capable de vous dire si je vais être capable de savoir combien sont morts de manque de traitement. Ça, c'est assez pointu comme information, puis je n'ai pas accès...
Mais c'est majeur, c'est majeur.
Oui, effectivement.
Parce que mourir de la COVID, c'est une chose quand tu as 88 ans, puis que tu es vulnérable, puis c'est une pandémie. Mais mourir parce que tu as été abandonné, parce que tu as été maltraité ou pas traité pantoute, c'est encore pire.
Oui, mais il faut faire attention quand même. En fait, je ne suis pas en train de dire là, que ce n'est pas dramatique, parce que je pense que ça l'est dramatique, mais je pense aux personnes là, qui étaient dans les CHSLD puis qui étaient pas assez de ressources, là, les quelques infirmières qui étaient présentes et qui essayaient puis qui voyaient ça arriver. Alors, il faut faire attention de la façon dont on le dit parce que ces personnes-là là, ont vraiment travaillé vraiment fort pour essayer
Mais
de...
Moi, je blâme pas les personnes. Moi, je blâme ceux qui prennent les décisions. C'est pas de la faute de l'infirmière si l'établissement est sous-financé. C'est pas de sa faute s'il n'y a pas une chaîne de commandement claire. C'est pas de sa faute si on sait pas trop ce qui se passe dans ces établissements-là. C'est pas elle qui est à blâmer.
Non,
je veux pas que la classe politique échappe à ses responsabilités. Et c'est ça mon point.
Ben, je suis d'accord avec vous, mais jusqu'à un certain point, en ce sens que c'est pas au moment où ça a été déclenché que les personnes qui étaient en place sont responsables.
Non, je veux
que toutes les personnes qui se sont succédées
exactement
dans ces rôles-là.
On dit la même chose. Moi, je veux que la classe politique, ça soit identifié, chiffré. C'est pour ça que depuis le début, moi, je préfère une commission, puis je vous enlève rien, là. Je pense qu'une commission d'enquête publique, on aurait permis d'asseoir des responsables, puis de les questionner, puis passer les ministres qui se sont succédés. Mais bon, c'est pas ce qui n'est pas le cas.
Je suis pas d'accord avec vous.
Ah ben non, c'est pas surpris.
Mais vous allez voir, il va y avoir énormément d'informations. Là. Aujourd'hui, là, c'est le déclenchement là, d'une série de publications. On en a six, ben, en fait, je dis aujourd'hui, mais c'était plutôt hier, là, mais il y en a six qui sont sortis hier. Et tout au long de l'automne, on va sortir des études là, très approfondies sur plusieurs éléments, notamment justement les coûts puis les revenus que reçoivent les maisons d'hébergement puis comment c'est réparti.
On va se reparler à ce moment-là. Merci, Mme Castonguay.
OK, parfait.
Bonne journée.
Bonne journée.
Joanne Castonguay est commissaire à la santé et au bien-être.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Pierre Fitzgibbon est de retour au Conseil des ministres. Il reprend le portefeuille de l'économie puisqu'il a vendu ses intérêts dans deux entreprises qui posaient problème. On sait qu'il avait été blâmé par la commissaire à l'éthique. Il est avec nous ce matin. M. Fitzgibbon, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Ça a été dur à vendre?
Ben, ça a pris du temps, mais la décision principale a été de revenir au Conseil des ministres, un poste que j'aime beaucoup, et je voulais assister mes collègues dans la continuation de notre mission. Donc, j'ai décidé que pour revenir au Conseil des ministres, je devais satisfaire l'interprétation, en tout cas, de déontologie, ce que j'ai fait durant l'été.
La première fois, la première blâme qu'il y a eu, vous étiez moins convaincu, peut-être, qu'il fallait procéder.
Ben, écoutez, tout ça, c'est une question d'interprétation, et dans mon cas, à ce jour, il n'y a pas eu d'acte que j'ai posé comme ministre qui m'a mis en position de conflit d'intérêt. Tout était dans l'apparence des conflits. Donc, dans ma tête, à ce moment-là, j'avais mis en place des mesures pour me protéger. Mais bon, de toute évidence, le commissaire était d'opinion différente, ce que je respecte. Alors, le prix à payer pour revenir dans le poste que je voulais occuper, j'ai disposé de mes actions, ce que j'ai fait en quelques semaines.
Vous avez fait des profits, des pertes ou effet nul?
Bon, on dit toujours qu'on fait des pertes, mais honnêtement, c'est pas pertinent. Je pense que j'ai pris la décision, c'est du passé. Je suis heureux ce matin d'être avec vous, de prendre mon poste, alors le reste, pour moi, ça devient non pertinent.
Est-ce qu'on peut savoir à qui vous avez vendu?
Bonne question. Pour éviter apparence future de conflit, un des éléments, c'est que je voulais transiger avec les entreprises directement, de ne pas avoir de lien avec des tierces parties pour ne pas justement avoir un autre enjeu d'apparence de conflit. Alors, dans les deux cas, c'est soit la société qui m'a racheté ou les hauts dirigeants. Donc, j'ai aucune dépendance avec des gens extérieurs aux entreprises.
OK, mais c'est quelle entreprise?
Ben, il y avait deux, il y avait White Star.
Puis OK,
avait...
donc c'était rachat à l'interne.
Exact.
OK, c'est ça que je veux comprendre.
Donc, il n'y avait pas de...
OK, mais est-ce que ces entreprises-là font affaire avec le gouvernement actuellement ou avec Investissement Québec ou la Caisse?
Là, on revient un peu au passé. Bon, on va en parler 30 secondes, si vous voulez bien. Effectivement, mon interprétation, c'est que, dans le cas d'Immervision, qui était la compagnie principale, Immervision paye ses comptes d'Hydro-Québec et Immervision rembourse ses prêts contractés à Investissement Québec avant mon arrivée en politique. Donc, il y a une transaction avec l'État, mais dans ma tête, c'était pas problématique comme les économies, mais tout ce que je pense n'a pas d'importance. Alors, aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est que ces compagnies-là peuvent maintenant transiger avec le gouvernement parce que j'ai vendu, mais pour se protéger encore plus et pour protéger l'apparence de conflit, c'est mon collègue, M. Éric Girard, qui va être responsable de transiger avec eux si ces entreprises-là veulent travailler avec le gouvernement.
OK, donc vous n'aurez pas à prendre des décisions qui auraient un effet sur ces entreprises.
Exact.
OK. Pendant la période où vous étiez plus ministre, vous avez quand même dû garder la main dans certains dossiers. Je ne peux pas croire qu'en sachant que vous étiez pour revenir, là, que vous n'étiez pas le ministre officiel, mais peut-être officieux.
Ben écoutez, j'ai respecté beaucoup la décision qui avait été prise, que je me retire du comité exécutif. Donc, je peux vous confirmer aujourd'hui que je n'ai eu aucune discussion avec M. Girard. Cependant, c'est sûr que les entreprises m'ont parlé. C'est moi l'ADN, je suis plein d'entrepreneurs. Alors, j'ai eu plusieurs rencontres avec les entreprises dans un contexte plus d'aviseurs que de décideurs. Et à quelques reprises, j'ai écrit des notes que j'ai envoyées au bureau du Premier ministre. Mais je me suis restreint de parler aux fonctionnaires, de parler à Investissement Québec et de parler à M. Girard pour des raisons de respect du fait que j'étais plus au Conseil des ministres. Donc,
Les entrepreneurs, les chefs d'entreprise qui vous appellent, ils vous appelaient pour quel dossier? Vous parlez de quoi?
Ben, écoutez, tous les dossiers qu'on a annoncés durant l'été, on a une liste énorme de dossiers. Alors, les entrepreneurs voulaient comprendre c'est quoi le processus. Ils demandaient mon avis, mon opinion sur comment procéder. Alors, c'était tout simplement... En fait, c'était un rôle beaucoup plus d'aviseur. Et tous les entrepreneurs savaient que j'étais plus décisionnel. Mais on débarque pas du tapis roulant demain matin puis on oublie tout ce qu'on a fait dans le passé. Alors, la nature de ma personne a toujours été d'être près de ces gens-là. Alors, je continue à l'être.
On avait une discussion hier avec mon ami Luc Ferrandez qui disait qu'il y a un danger pour un ministre. Lui, il était maire de l'arrondissement, puis quand quelqu'un venait demander quelque chose, il l'envoyait à la bureaucratie. Il peut l'entendre, là, mais il voulait pas être pris pour être en conflit d'intérêts. Il n'y a pas un potentiel danger, si vous parlez aux chefs d'entreprise, si vous les rencontrez, de vous placer dans une position quand vous avez à prendre des décisions qui ont un impact sur leur business.
C'est un très bon point. Puis effectivement, la nature de ma personnalité est telle que j'aime être proche de mes dossiers. Par contre, je pense qu'on peut se fier aussi à l'appareil gouvernemental. Si un matin je me lève, je décide d'aider M. Arcan, ben le ministère de l'Économie, là, les gens qui sont compétents là vont dire « Oh, ça marchera pas ». Alors, je pense que oui, je suis très visible, je suis très présent. Ça peut causer peut-être certains enjeux. C'est l'avantage aussi d'être connecté avec ce qui se passe. Mais je pense qu'il faut donner beaucoup de support à la rigueur ministérielle. J'ai un ministère d'économie qui est très, très fort. Alors, ces gens-là sont là pour protéger le ministre, protéger le gouvernement. Alors, je pense que les règles internes sont en place pour éviter un conflit potentiel.
Je regardais ce matin, quand on parle de conflit potentiel, c'est la presse qui parle d'une firme chinoise qui a embauché des lobbyistes au Québec. Une firme qui a des origines et des disons, un passé assez controversé, douteux. Puis ils sont inscrits pour vous faire pression. D'abord, étiez-vous au courant de ça avant de lire ça ce matin?
Non, pas du tout.
Vous savez pas, la connaissez-vous, cette firme chinoise-là? Savez-vous dans quel projet ils veulent vous embarquer?
Je connais le nom, j'ai travaillé en Chine, mais j'ai pas de connaissances précises du dossier.
Puis qu'est-ce que vous savez de cette compagnie-là?
Compagnie respectée en Chine, bon, un peu de détention gouvernementale qui en soi pose un peu de problématiques. On connaît l'enjeu géopolitique des relations sino-canadiennes, sino-américaines, alors il faut être sensible à ça. C'est une société qui existe, puis qui a des opérations, là, c'est pas...
Mais quel est leur intérêt, d'après vous, de venir comme ça marauder au Québec, faire des représentations à Baie-Comeau?
Ben, écoutez, j'ai pas de dossier spécifique, mais faut comprendre que le Québec, on est très attractif. Hein. Je pense que on parle beaucoup de la filière batterie, on parle de nos sources hydrauliques, de nos sources énergétiques, l'économie verte. Alors, le monde regarde le Québec présentement. Donc, je pense que ce qu'on voit avec les Chinois n'est pas différent de ce qu'on voit avec les Allemands ou avec d'autres juridictions, ce qui est positif en soi. Il faut juste être prudent, évidemment, parce que le côté géopolitique est assez particulier avec la Chine présentement.
Ça doit être difficile pour le ministre de l'Économie de tenir compte du géopolitique. D'habitude, faire des deals, si le deal est payant, ben on le fait, mais c'est habituellement la seule considération, ou presque.
Et c'est pour ça que je pense que l'organisation d'un gouvernement est positive, parce que même si le ministre de l'Économie veut faire affaire avec une société, on a toutes sortes de balises à côté. Le bureau du premier ministre, il y a des ressources qui sont là, à côté de le ministère de la Justice, donc il y a plusieurs personnes. Donc, le ministre de l'Économie, aussi grand peut-être, décide pas seul. Mais c'est effectivement, il y a beaucoup de morceaux qui font en sorte qu'une transaction doit être... ça prend du temps. Hein? On blâme souvent le gouvernement que ça prend du temps, mais ça prend du temps parce que quand même, on gère l'argent du public, alors faut être prudent.
OK. Quel est l'état de l'économie, là? C'est la rentrée, là. Je regardais, on va parler de la Chambre de commerce tantôt, là. Les gens reviennent tranquillement. Il y a des craintes de partager le bureau avec des non-vaccinés. Avez-vous l'impression que c'est reparti, que ça va prendre encore un peu de temps? Il y a toute la question de la pénurie de main-d'œuvre.
Je pense que, fondamentalement, tout le monde a été surpris de voir comment résiliente l'économie du Québec et de d'autres juridictions a été. Ça, c'est positif. Le problème de la main-d'œuvre a été exacerbé, c'est sûr, avec le retour au travail. Il y a des gens qui ont décidé de faire d'autres métiers. Et je pense que ça met en lumière le besoin, c'est le gros défi de notre gouvernement, c'est de promouvoir l'innovation en entreprise. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les entrepreneurs aujourd'hui qui sont résilients n'ont pas le choix que de faire mieux avec ce qu'ils ont, donc techniquement investir plus en technologie. Mais en parallèle à ça, c'est sûr qu'il va falloir adresser les enjeux de main-d'œuvre, autant les aînés qui doivent travailler plus longtemps, autant l'immigration temporaire pour des postes à combler, autant la formation, la qualification. Faut pas oublier.
Mais on n'est pas en train de se tirer dans le pied dans le sens suivant, là. Je regardais les inscriptions au cégep. On ne sait pas où ils sont, mais il manque d'étudiants. Ça veut dire qu'il y en a qui ont décidé de quitter, peut-être pas pour toujours, mais en tout cas, ils vont pas chercher une formation qui va être de plus en plus demandante là, pour combler ces postes-là. Il y a un problème pour avoir de la main-d'œuvre qualifiée issue du Québec.
Vous avez raison. Et d'ailleurs, je pense qu'avec Mme McCann, ma collègue d'enseignement supérieur, et M. Boulay, il est clair qu'il faut valoriser d'une part les métiers. Hein. Tout le monde veut être PhD, mais il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire d'adéquation entre les entreprises et l'enseignement supérieur, ce qu'on voit en Allemagne, par exemple. Alors, je pense qu'il y a toute une éducation à faire au niveau de pour nos jeunes, leur montrer quels vont être les emplois du futur. T'sais, on parlait beaucoup, Steph McKenzie, je pense, au BCG, qui disait que 50% des emplois qui vont être comblés par nos jeunes au primaire n'existe pas aujourd'hui. Alors, il faut que, d'une part, les recteurs universitaires ou les directeurs de collège travaillent avec des entreprises, entre autres, mais pas juste les entreprises. Et je pense qu'on a un travail à faire là. Maintenant, je pense qu'on a quand même, si on regarde la démographie du Québec, je pense qu'on peut combler une grande partie des besoins en main-d'œuvre. Puis, dernier point, il faut pas oublier qu'après 75% des postes à combler au Québec qui ne requièrent pas de diplôme universitaire. Ça veut dire quoi, ça? Il faut valoriser les métiers. Exact. Ce qu'on fait pas. Il faut le faire mieux. Puis je pense qu'avec, comme gouvernement, c'est carrément l'enjeu numéro un, numéro deux, numéro trois.
OK.
Pour les prochains trois ans. Trois ans, cinq ans.
Là, vous voulez rester pour un autre mandat, j'ai bien compris?
Moi, j'ai toujours dit que j'avais un travail à faire. Avec M. Legault, j'ai été interpellé par le fait que créer de la richesse collective pour investir en éducation, qui est probablement le ministère le plus important du gouvernement en passant, ça va prendre quelques années. Alors, si la population est satisfaite du travail qu'on fait, que je suis réélu, pourquoi pas?
Avez-vous regretté d'avoir fait le saut en politique?
Non. non.
Jamais. Il n'y a pas un matin où vous êtes dans quelle galère je me suis embarqué, moi, là?
Oui. J'ai écouté d'ailleurs votre entrevue avec Mme Thériault, là. J'étais entièrement d'accord avec elle cette semaine, lundi, je pense, ou mardi. C'est sûr que la balance des convenances, cet été, ma décision, c'est pas de vendre mes actions, là. Ma décision, c'est est-ce que j'aime assez ce métier-là pour revenir? Puis si ça avait été non, je serais parti ailleurs sur mes terres. Ben, j'aime ce métier-là, puis je pense que c'est valorisant pour un individu de penser qu'on peut contribuer.
Est-ce que vous recommandez ça à des gens d'affaires, hommes et des femmes d'affaires?
Absolument. Oui. Absolument. Ce métier est intéressant.
Quel conseil vous leur donnez? Vendez vos patentes le plus vite possible.
Ben, faut être flexible. Dans cet événement-là, les gens m'ont traité d'arrogant, Alors, j'étais un peu têtu, peut-être, dans ma tête, parce que fondamentalement, on est.
Vous n'êtes pas habitué de vous faire dire, voici ce que vous allez faire, là. C'est pas dans votre nature trop.
Peut-être pas, non. Mais d'autre part, par contre, le matin, quand on se lève devant le miroir, on se regarde, faut être bien soi-même. Puis, honnêtement, dans cet événement-là, j'étais en porte-à-faux avec le commissaire, c'est sûr. Puis, j'en veux même pas. Dans ma tête, à moi, j'étais pas en conflit d'intérêt. Bon, ce que je pense n'a pas d'importance parce que d'autres personnes ont décidé que je l'étais, alors j'ai disposé. Alors aujourd'hui, est-ce que ces événements-là ont été négatifs dans ma tête? Oui, un peu, mais le positif a été plus que pensé.
M. Fitzgibbon, merci d'être venu ce matin. Merci. Pierre Fitzgibbon, qui est de retour comme ministre de l'Économie.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan. Les grandes entrevues de la semaine.
Le premier ministre du Québec, M. Legault, dit aux employeurs, vous voulez imposer le vaccin à vos employés, donc un passeport vaccinal. Vous avez le pouvoir de le faire. Puis on a vu arriver en courant le ministre Chamboulé qui a dit, c'est pas aussi simple que ça. Et il y a d'autres étapes. Je fais le point avec l'avocat spécialisé en droit du travail, Claude Gravel. Maître Gravel, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
On s'en est parlé à quelques reprises, mais après les propos de M. Legault, là, c'est important de rappeler. Les employeurs qui nous écoutent ce matin, là, qui auraient envie, parce qu'on le voit dans des sondages, que pour leurs employés, un des facteurs assez élevés d'anxiété, c'est de se retrouver avec des non-vaccinés dans le même espace de travail. Moi, comme employeur, là, qu'est-ce que je peux faire puis qu'est-ce que je devrais faire en premier?
Permettez, je vais revenir un petit peu en arrière. On n'est pas dans un contexte global ou un contexte normal. Et c'est la raison pour laquelle, là, il y a un peu plus d'un an, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence sanitaire. Cet état-là, puis en vertu de la loi sur la sécurité, santé publique, là, donne au gouvernement des pouvoirs très, très importants, dont celui de pouvoir ordonner la vaccination obligatoire de la population. Ça, c'est important à retenir parce que, dans le fond, c'est le pouvoir qui est entre les mains du gouvernement et le gouvernement, jusqu'à maintenant, ne l'a pas exercé ou entend l'exercer de manière très, très pointue, si vous me permettez l'expression. Maintenant, pour l'employeur normal là, qui se pose des questions, puis je comprends que la déclaration du premier ministre hier avait un peu de quoi surprendre et que son ministre du Travail était venu nuancer ses propos, c'est que, dans le fond, c'est un peu une gestion de risque pour chacun des employeurs et chaque cas est un cas d'espèce. Alors, pour l'employeur qui se retrouve dans une situation où, en raison de la nature de ses activités, il y a une grande promiscuité entre ses employés, il y a des risques importants de contagion, il y a une certaine catégorie de ses employés qui est vulnérable. Puis là, je vais faire une analogie avec le réseau de la santé. Cet employeur-là pourrait être justifié, je dis bien justifié, basé sur des éléments factuels et scientifiques, d'imposer la vaccination. Pour l'autre employeur qui ne se retrouve pas dans des conditions de même nature, ou donc dans des conditions où les risques sont suffisamment importants pour justifier l'imposition de la vaccination obligatoire, bien celui-là ne sera pas, entre guillemets, autorisé imposer. Ouais.
Mais prenons des exemples clairs. Là. Mettons un employeur, une centrale téléphonique, où ce sont des cubicules, les gens sont un à côté de l'autre. Est-ce que, selon vous, ça, le contexte fait en sorte que ça permet d'imposer la vaccination?
Ben, ça pourrait le permettre. Puis il n'y a pas de bonne réponse, M. Arcand, il faut s'entendre. Ça pourrait le permettre, mais avant d'imposer la vaccination obligatoire, l'employeur devra faire la démonstration qu'il n'avait pas d'autres mesures moins intrusives mises à sa disposition qu'il aurait pu offrir à ses employés. Ici, par exemple, je suis dans une centrale d'appel, les employés sont un à côté de l'autre. Est-ce que le télétravail, ou plusieurs compagnies d'assurance l'ont fait, et d'autres compagnies l'ont fait également, permettent aux employés de pouvoir le faire à partir de leur résidence? Certains employeurs ont commencé à indiquer que maintenant, pour avoir accès au lieu du travail, les employés qui souhaitent se présenter comme les clients qui souhaitent avoir accès au lieu vont devoir montrer une preuve de double vaccination. Alors, on voit ici qu'il y a un univers de possibilités avant de se rendre au remède absolu qui est la vaccination obligatoire.
Si je reviens à ce que vous m'avez dit au début, là, est-ce que ça veut dire, compte tenu des mesures d'urgence, de l'urgence sanitaire, là, Québec pourrait décréter que les employeurs, à travers le Québec, ont le droit d'exiger le passeport vaccinal sous peine de renvoi, sous peine de sanction?
C'est-à-dire que la loi ne vise pas les employeurs comme tels, vise la population dans son ensemble. Maintenant, le gouvernement pourrait caractériser la population, puis dire pour certains membres de la population qui ont telle caractéristique ou qui s'adonnent à telle activité, je vais rendre obligatoire la vaccination. Puis, naturellement, on vient toujours il y a des droits fondamentaux qui sont protégés. Alors, est-ce que l'atteinte que le gouvernement impose par un tel décret est justifiée? Donnera toujours lieu à une possible contestation judiciaire. Mais il faut bien comprendre ici que la loi sur la santé publique donne au gouvernement des pouvoirs exceptionnels et excessivement importants.
OK. Prenons ça d'un autre point de vue. Je suis un employé doublement vacciné. Si je dis à mon employeur, là, si j'ai pas la garantie que les gens qui travaillent autour de moi sont vaccinés, moi, ça me rend anxieux. Est-ce que je peux dire, tu vas me mettre en télétravail, tu vas m'affecter ailleurs, mais je veux pas travailler si j'ai pas la garantie que l'environnement est vacciné?
La question est excellente. L'employeur, puis vous le savez, tous les employeurs au Québec ont l'obligation d'assurer la santé puis la sécurité de leurs employés. Et c'est une des raisons pour lesquelles, M. Arcand, à l'heure actuelle, plusieurs employeurs vont dire, ben, pour les employés qui souhaitent se présenter au travail, vous devrez nous faire la démonstration d'une double vaccination. Donc, à contrario, ceux et celles qui ne sont pas en mesure de faire cette démonstration, l'employeur peut être justifié de leur interdire l'accès au lieu de travail et leur offrir des alternatives de télétravail. Hier, le ministre du Travail disait, ben, est-ce qu'on va envisager le congédiement? Ça m'apparaît ici, puis encore là, chaque cas est un cas d'espèce, une mesure excessive, mais une personne pourrait se retrouver, par exemple, en congé sans solde ou dans une situation de mise à pied, compte tenu des circonstances auxquelles l'employeur peut être confronté.
Parfait. Merci, Maître Gravel. Bonne journée.
Ça me fait plaisir. Au
revoir. Maître Claude Gravel est avocat spécialisé en droit du travail.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
On a appris il y a quelques semaines cette transaction estivale, mais qui devait quand même être en préparation depuis un certain temps, alors que IGA Sobeys prenait le contrôle de Ricardo Media. Puis là, on s'est dit, mais pourquoi? Pourquoi maintenant? Il est avec nous ce matin. Ricardo, bonjour.
Bonjour, Paul.
Pourquoi avoir vendu?
Je dirais pour assurer la pérennité de la marque. C'est simple comme ça.
À cause des problèmes de la pandémie?
Non.
Non.
Ben, c'est-à-dire que les problèmes de la pandémie nous ont, comme plein d'entrepreneurs, obligés à réfléchir puis à penser stratégie. La pandémie nous a aussi obligés, puis ça, avec le moyen et long terme, c'est bon, d'exécuter un plan qu'on s'était fait pour les années à venir. On a fait ça en 3 mois pour virer de bord puis de faire autrement. Mais on est depuis plusieurs années dans la réflexion de dire c'est beau de parler de transmission puis de sauvegarde puis de mais ça se fait comment? Alors, à force de parler avec des gens qui l'ont vécu, des fois des entreprises de deux, troisième génération, et de d'autres qui ont pris la décision un peu comme nous autres, dire « je pense que pour le bien des employés, pour la sauvegarde et la pérennité de l'entreprise, ça prend un partenaire stratégique qui peut t'amener là où toi, tu ne seras pas capable d'aller. »
Donne-moi un exemple de l'importance d'un partenaire comme IGA pour aller quelque part où sans IGA, tu ne pouvais pas aller.
Ben, pénétrer le marché canadien-anglais. Tu sais, au Québec, on est privilégié. C'est ici que je me suis construit.
Et tu peux faire des ententes de collaboration de services sans nécessairement vendre.
C'est très difficile. Le nombre de fois que j'étais allé à Toronto, à Vancouver, tu sais, du monde qui veut vendre des gâteaux puis des pots de sauce tomate, là, il envoie une trolley tous les jours. T'as beau t'appeler Ricardo, pourquoi je prendrais la tienne? Puis là, il y a comme toute une analyse là-dedans. Et puis je l'ai faite, je dirais, avec assez de succès, sauf que la vraie pénétration d'un marché, c'est pas deux, trois succès d'estime. C'est pas, ça prend plus que ça. Faut aller plus en profondeur et la distribution. Si j'avais eu le partenariat que j'ai en ce moment, le magazine anglais serait encore là. La seule raison pourquoi le magazine en anglais n'était plus là, c'était que c'était impossible de le distribuer à travers le Canada à un coût moindrement raisonnable. On regardait les lignes, il y a trois grands axes de développement dans Ricardo Media pour les années à venir. Le commerce de détail, mais en ligne, on l'a vu, il y a eu une explosion. Mais plus je vends en ligne, je vois pas les revenus aller en proportion avec, parce que la distribution coûte trop cher. On est beaucoup dans l'efficacité de ça, ça va très bien, mais il faut trouver une meilleure façon. Ensuite de ça, tout ce qui est numérique. Le site web, c'est un des meilleurs au Canada. C'est des millions de personnes au Canada et au Québec qui sont là-dessus tous les mois. Mais le futur demande des investissements astronomiques pour arriver à ce que Brigitte et moi, on rêve pour simplifier la vie des gens dans leur quotidien. Et finalement, la ligne alimentaire. C'est sûr que quand une marque, là, on doit être rendu à une cinquantaine de produits là, dans la ligne alimentaire Ricardo, on en a au moins une centaine en tête, ben, pour le propulser d'un océan à l'autre le plus rapidement possible, ben quand c'est à toi, tu y mets beaucoup plus de cœur.
C'est pas une vente de feu, là. C'est pas parce que ça aurait pas pu continuer, parce que là, le prix à la gorge, la banque...
Bon. Non, parce que par orgueil, j'aurais dit, c'est pas vrai qu'on a pris 20 ans pour construire ça, puis je vais vendre ça à perte. Okay. Non, merci. Par contre, quand on a traversé la pandémie, on s'est dit... Ce qui nous a sauvés, c'est qu'on est diversifié. Si j'avais eu juste des restaurants, j'ai des amis qui ont des restaurants, là, puis my God que c'est pas facile. Nous autres, on a eu la chance de dire, il nous reste la télé, le livre au Canada anglais et au Québec a bien marché. Les produits alimentaires, on voit qu'il y a une énorme demande de ce côté-là, ici puis ailleurs. Donc, on s'est dit, le futur, il est là. Ma plus vieille qui a fini l'université entre avec nous autres dans les produits alimentaires. J'ai dit, notre futur, il est là. Puis j'ai envie de dire aux employés, c'est grâce à vous autres qu'on est là, puis je vais prendre la meilleure décision, pas pour mon orgueil personnel, mais pour l'ensemble du groupe.
Est-ce que tu as sollicité IGA, ou c'est IGA avec lequel tu as été partenaire depuis quelques années, là, qui est venu te voir?
Bien, ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble, puis ça s'est fait, je dirais, quasiment naturellement. Parce que, tu sais, des fois, il y avait des projets qui arrivaient, puis je leur disais, ouais, mais moi, je... pas votre porte-parole. Je veux dire, on travaille ensemble, mais je suis le porte-parole de rien. J'ai toujours pris un point d'honneur de pas faire de publicité pour des compagnies, surtout alimentaires précises. J'ai appuyé des groupes alimentaires parce que je crois vraiment aux producteurs puis à ces productions-là, mais j'ai toujours essayé de garder une distanciation. Puis là, on travaillait de plus en plus ensemble, puis là, à un moment donné, ils m'ont dit, Ricardo, on est toujours présent avec toi, on participe à tes vidéos, tes produits alimentaires sont déjà en exclusivité chez nous. Pourquoi est-ce qu'on va pas plus loin? Ben, qu'est-ce que vous voulez dire plus loin exactement? Puis là, on a pris une coupe de marche avec Pierre Saint-Laurent, le numéro 2 chez IGA Sobeys, puis on n'a pas parlé d'argent, on a parlé de valeur. Il dit, on a les mêmes objectifs. Pourquoi est-ce que on pourrait pas embarquer pour vrai avec vous autres? Puis là, on s'est mis à réfléchir, puis en 3 mois, c'était fait.
Souvent, dans ce type de transaction, il y a une obligation pour le vendeur, et surtout dans ton cas, parce que tu incarnes la marque, là, comme on dit, de rester un minimum d'années. Là. Il faut que tu sois là pour 3 ans, 5 ans, 10 ans. Dans ton cas, c'est combien d'années minimum?
Ben moi, je me suis dit que j'étais En fait, c'était une bonne raison aussi de le faire maintenant parce que on est plein d'énergie. On a beaucoup de projets dans les cartons, Brigitte et moi. Puis on s'est dit, si on le fait tout de suite, notre fille a le temps de s'impliquer plus puis de prendre de l'expérience pendant que nous, on est là. Puis quand on va arriver à l'âge de la retraite, vers 60, 65, moi, j'ai pas envie d'être le patron qui s'incruste à 80 puis qui est sûr qu'il y a la vérité. Non, j'ai le goût de venir le faire perdre du temps en jasant puis savoir comment est-ce qu'ils vont dans la vie. Je le fais déjà pas mal. Quand ils me voient de rentrer dans le bureau, ils savent qu'ils viennent de perdre 20 minutes, là. Mais c'est important de se garder le rôle qu'on aime le plus. Puis notre rôle, ça va être un rôle de valeur puis de, justement, de d'énergie puis de s'assurer que dans les 5, 6, 7 ans, avant que j'arrive à l'âge de la retraite normale, que j'ai réussi à finaliser ce transfert-là à des gens qui, pendant la pandémie, nous ont prouvé, à Brigitte puis moi, que si on est là et on est si fort, c'est grâce à elles et à eux. Puis ça, ça nous a encore plus motivés en se disant, on l'a la preuve que ça marche en toi puis moi. Ça fait déjà 5, 6, 7 ans que j'enlève mon visage de partout. Tranquillement, pas vite, sans que les gens le voient. Je suis plus sur le magazine. Je m'enlève des boîtes de tout ce que je fais. Parce que c'est important que les gens s'attachent à une marque, pas à un individu. Parce qu'un individu, c'est pas éternel. Puis à un moment donné, moi, un de mes beaux exemples d'envie, ça va rester Martha Stewart. Parce que c'est la première à avoir créé une entreprise du style qu'on a. Puis elle a vendu à un grand groupe qui avait plus de moyens qu'elle, même si elle était milliardaire. Ça fait au moins 7-8 ans, peut-être 10 ans. Elle est encore là, puis elle a au-delà de 80 ans. Alors, je me vois beaucoup plus dans ça où tu dis, en vieillissant, tu gardes les stress que tu peux. Surtout, tu transfères les responsabilités à des gens qui ont plus de compétences que toi dans différentes catégories au fil du temps. Puis c'est en transférant cette je dirais, autorité-là à des gens plus compétents qui, au fil des ans, ton entreprise peut survivre et passer le fil du temps. Tu sais, il y a des familles, au Québec, on n'a pas un bon score pour les transferts familiaux.
C'est-à-dire que souvent, ce qu'on remarque, c'est que la première génération, bon, crée, fonde l'entreprise. La deuxième, dans certains cas, il y a une transition où ça casse carré.
Ouais.
La troisième, parfois, c'est très difficile.
Tu sais, j'ai dit à ma fille, tu sais, Béatrice, il n'y a rien qui t'empêche d'être la présidente de Sobeys et Empire. C'est possible. C'est une culture d'entreprise de prendre des gens qui sont de la base puis de les groomer puis de les amener plus haut. Tu sais, c'est une entreprise qui fait 29 milliards par année, qui a beaucoup d'espace. Moi, je me suis beaucoup renseigné avec les dernières compagnies qu'ils ont achetées, par exemple, au Québec, Kim Fat leur appartient depuis des années, dans le même principe que moi. La famille est encore présente. À Longo, à Toronto, Farm Boy aussi, c'est des épiciers vraiment super. Un peu comme Adonis c'était quand Metro les a achetés. Puis je pense que leur plus grande force en ce moment, c'est de dire à ces familles-là, ne changez surtout pas. Moi, une des premières affaires qu'ils ont dit à Brigitte puis moi, c'est on admire votre souplesse, votre créativité. Vous tournez de bord sur un dixième quand on est une méga entreprise, c'est jamais facile. Puis c'est ce qu'on aime de ces nouvelles entreprises-là qui sont avec nous autres. On veut se faire fouetter pour dire « Hey, on l'essaye-tu? » Parce que c'est ça la vraie affaire. On l'essaye-tu? Là, on fait pas de la chirurgie à cœur ouvert. C'est pas la vie de quelqu'un qu'on a entre nos mains. On fait des recettes pour simplifier la vie des gens. Faut toujours ramener ça à la base. Là. À quoi est-ce qu'on sert? Je suis là pour dire, je peux-tu te sauver du temps puis de l'argent puis par la bande augmenter ton estime de toi. Puis la pandémie était fantastique pour ça. Le nombre de personnes qui m'ont écrit pour me dire, j'aurais dû faire ça avant. Finalement, je suis pas si pire. Ben c'est clair que t'es pas si pire. C'est sûr que tout le monde est bon.
Est-ce que tu sens qu'il y a des différences culturelles importantes? Moi, j'ai travaillé pour des entreprises basées à Toronto pendant quelques années. Puis pour la radio, ça a rien à voir entre ce qui est pensé au Québec en français là. Puis bon. Est-ce que tu sens ça? Tu dis.
C'est énorme!
As-tu parlé à des. À part le boss francophone, là, as-tu parlé à des big boss anglophones? Puis tu peux essayer de comprendre qu'eux essayent de te comprendre.
Tu sais, ça fait 10 ans que je travaille, entre autres, pour le Food Network. Je viens, là, j'arrive d'une couple de semaines de tournage à Toronto. Autant la télé que la radio, que les médias, je suis dans le Toronto Star depuis 4 ans tous les jours. J'ai appris à connaître cette autre entité-là, qui est le Canada anglais. Puis les anglophones de Montréal sont du Québec en général, ça n'a rien à voir. On est très québécois. Tu sais, des fois, on a l'impression qu'il y a les Anglais au Québec puis les Français. Non, on est très québécois dans la façon d'être. Puis quand tu parles à un anglophone de Montréal, il va dire qu'il déménageait à Toronto. My God, que ma vie est différente. Donc, c'est une des premières choses que, par exemple, Pierre Saint-Laurent, numéro 2 ici, me dit, il dit, on verra ensemble qu'est-ce qui plaît aux gens de Vancouver, puis à d'autres, de Toronto ou de l'île du Prince-Édouard. Dans ce que je suis, il y a des choses qui vont leur plaire, puis il y a des autres choses qui vont falloir que je les convainque, que j'aille faire mon pitch de vente. Puis ça, c'est mon travail. Ouvrez-moi une porte, puis je vais vous vendre ça, moi, de la levure, une boîte à la fois. C'est de même que je le vois. Puis je suis un conquérant dans l'âme. Puis moi, j'avais dit à Brigitte, voilà 20 ans, je veux être le premier Québécois au Food Network. Ils disent que c'est une chaîne nationale. Puis quand je suis allé les voir, c'est ça que j'avais dit. C'est pas vrai que vous êtes une chaîne nationale. Vous avez jamais pris une émission du Québec ou un animateur d'ici. Je voulais être le premier. Puis je l'ai été. Puis j'en suis encore très fier. Puis leur vision change. Cette semaine, la semaine passée, quand je tournais à Toronto, sur tous les juges de cette émission-là, on était 7 ou francophones ou parfaitement bilingues. Moi, je vis pas dans Walt Disney. Je sais que des fois, il y a du gros bashing, même à l'intérieur d'entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. Mais je me dis, si chaque Québécois qui a moindrement de l'énergie puis qui y croit, parle en français, fait ce qu'il est, fait la promotion de qui on est, peu importe où on va, dans de la fierté puis de l'autonomie, les gens changent, les gens aiment la fierté. Puis moi, maintenant, quand j'étais à Calgary, puis pour revenir à ta question, là, c'est sûr que ma blonde va m'écrire pour me dire « Laisse-les parler, tu parles trop longtemps », mais une des premières entreprises qui m'a laissé du temps puis qui m'a aidé, c'est Safeway, qui appartient maintenant. Mais quand j'ai commencé à travailler pour Safeway, avec Safeway, ils m'ont dit « On aimerait ça que ce soit toi qui vends des accessoires de cuisine dans tous nos supermarchés. » Safeway, c'est un équivalent d'un IGA. Puis il dit, on voudrait que ce soit toi, on aime l'élégance que vous avez au Québec, la façon dont vous présentez vos choses. Puis j'ai embarqué avec eux autres, j'ai appris à connaître le président de la chaîne, j'ai appris à connaître les gens qui sont derrière les fondations qui supportent. Puis c'était les mêmes que ce que moi j'aimais. Aimes-tu manger la même chose? Pas tout le temps, pas pareil. Mais moi, c'est un défi. Tu sais, mon site, il y a 1 million de Canadiens anglais qui viennent sur notre site à chaque mois. Mais j'en voudrais 15. Tu sais, j'aimerais avoir la même proportion de Canadiens anglais. Mm-hmm. J'ai fait une croix pas mal sur ce qui est américain, européen, parce que ça me tente plus de rechanger ma vie puis de penser autrement. Puis je suis bien ici. Je comprends la différence des Anglo-Canadiens. Puis je pense que je peux faire plus. Puis faire la promotion de qui on est par la bande. Puis Sobeys, ils croient en ça. Ici, puis mais ils ont la même philosophie en Ontario, à Calgary ou à Vancouver. C'est toujours comment je peux faire en sorte pour mettre de l'avant des familles. Il faut pas oublier que nous autres, on est à peu près 200 employés. IGA, c'est une suite d'entreprises de familles d'à peu près 200 employés. C'est la même philosophie, c'est tout du monde qu'on connaît.
Quelles sont les tendances alimentaires pour l'automne? Qu'est-ce que tu vas proposer? Je lâche la business là, pour tomber dans...
Oui, je dirais que autant au début, on cherchait des gros projets qui prennent du temps. Là, on a moins de temps parce que la vie reprend. Puis, je veux dire, à un moment donné, on reprend nos vieilles habitudes, mais il y a tout de même le goût du local qui va rester. Il y a quelque chose qui va changer. Ça va être difficile. J'aimerais ça pouvoir en reparler dans un an.
Ouais.
Parce que quand tu es encore dedans, tu sais, puis on en parle encore quotidiennement, puis là, c'est facile. On est encore sur la pause momentanée de l'été. Ce qu'on avait eu l'été passé.
Ouais.
Là, la rentrée scolaire arrive. C'est sûr que moi, ça me fait du bien de sentir que les enfants vont à l'école. Parce que je le vois dans les courriels, la tension des parents est moindre quand leurs enfants sont à l'école.
Mm-hmm.
Tu peux te focusser sur aussi payer les comptes, s'occuper de sa famille, la version économique de ça. Les liens ont été tissés serrés, je pense, avec nos enfants. Le kit a fallu se parler. Il y a beaucoup qui ont réglé ce qu'il y avait des affaires réglées chez nous. En tout cas, tu sais, on t'a retrouvé dans la maison avec des jeunes adultes. Des fois, ça brasse, mais ça brasse pour le mieux parce que tu récupères du temps que t'avais perdu.
On place les affaires, des fois.
Donc, moi, l'automne, je le vois comme on réinvente pas le monde. Faisons ce qui nous sécurise. Si quelqu'un veut manger une lasagne 3 fois dans la même semaine à la maison, fais-y. Casse-toi pas la tête, que tu veux de la variété, pis ça. Allons dans ce qui nous fait du bien, là. Puis on se prépare pour un automne qu'on espère le plus doux possible. Puis arrêtons de se mettre de la pression. Je dis, moi, ma job, c'est de vous trouver des solutions.
Retourne au bureau, déranger tes employés pendant 20 minutes.
Elles sont pas encore là, fait que je peux encore. Il y a juste toi que j'achale.
Merci d'être venu ce matin.
Hey, merci infiniment.
Ricardo Larrivée est notre invité ce matin. Première entrevue sur le monde des affaires, la transaction.
l'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.